Chapitre 11. Mars. La famille Mars appartenait au cercle restreint des grandes familles syracusaines. Écartée du pouvoir, elle ne cessa d'intriguer pour renverser les Hang du trône seigneurial, puis impérial. Les Mars se spécialisèrent également dans l'étude et la production d'une synthèse chimique d'excitation neuronale appelée microstasie. Les microstases étaient censées protéger l'esprit humain contre les inquisitions mentales et développer le potentiel psychique de l'utilisateur. Leur efficacité réelle n'a jamais été démontrée, mais aucun doute ne subsiste sur leurs conséquences physiologiques désastreuses. Une consommation régulière pouvait réduire le corps d'un tiers de sa taille et de son volume. L'abus microstasique valut à Yemahit de Mars d'être exilé sur la planète Franzia, où, selon la légende, elle devint passeur clandestin sous le nom de Yemata et fut assassinée par le jeune Marty de Kervaleur. Sa sœur cadette, Miahit, surnommée l'impératrice, fut soupçonnée d'avoir conclu une alliance occulte avec les guerriers du silence. L'histoire du Grand Hang Empire, Encyclopédie Unimentale. Shari se remettait peu à peu de sa cryogénisation. Il avait recouvré la cohésion de ses pensées et de ses paroles après des heures d'un délire fiévreux. Son transfert psychokinétique depuis la salle souterraine de l'ancien palais seigneurial jusqu'au parc extérieur du palais impérial aurait pu lui coûter la vie, car il l'avait effectué après avoir été atteint par un rayon cryo, au moment où les produits de congélation commençaient à se diffuser dans son organisme. L'énergie subtile que requérait le voyage sur la pensée allait à l'encontre du processus chimique de fixation. C'était ce contraste entre la chaleur fluide et le froid conservateur qui avait maintenu Shari entre la vie et la mort pendant plus d'une journée syracusaine. Assis sur l'une des deux banquettes air de la chambre, Jake fit rouler dans la paume de sa main les deux sphères arrachées de haute lutte aux gardes impériaux et sur les côtes desquels il avait repéré des chiffres gravés. Les numéros qui correspondent au socle de cryogénisation, avaient affirmé leurs hôtes. Il ne savait donc pas s'il tenait la résurrection de Yel dans le creux de sa main. Quelle importance ! Il ne repartirait pas tant qu'il n'aurait pas ranimé les quatre congelés du palais épiscopal. Toutefois, leur première intervention à demi réussie, à demi raté si on se montrait pessimiste, avait probablement entraîné une recrudescence de surveillance autour des deux derniers codes. Ils ne bénéficieraient donc plus de l'effet de surprise, et le sénéchal Arcot aurait eu le temps d'améliorer les mécanismes de son dispositif. La lumière des bulles flottantes jouait sur les tentures hauts, les tapis aux motifs changeants et les microdômes géodésiques. Jack n'avait jamais été environné d'un tel luxe, même dans la cabine du viduc Papyronda. Il se demandait encore pourquoi cette grande famille syracusaine avait recueilli le corps inanimé de Shari. Tout s'était passé tellement vite dans le parc public du palais impérial qu'il avait parfois l'impression d'avoir évolué dans un rêve. Les silhouettes des interliciers s'étaient rapprochées à grande vitesse. Il avait d'abord repoussé la tentation de prendre la fuite, avait extirpé la boîte de seringue du collant-corps de Shari, mais, au moment de l'ouvrir, la panique avait rendu ses gestes nerveux, inefficaces. Ses doigts tremblants, moites, n'étaient pas parvenus à débloquer le minuscule locto. Il avait relevé la tête, s'était rendu compte que les interliciers étaient sur le point d'opérer leur jonction, et, la mort dans l'âme, craignant d'être à son tour touché par un rayon cryo, il avait pris la décision de se réfugier dans un couloir éthérique en abandonnant le corps inerte de Shari. Ce retrait provisoire lui permettrait de garder l'entière liberté de ses mouvements et d'intervenir ultérieurement. Il lui restait un peu moins de 3 heures, selon les paroles de l'un des badauds, pour ranimer le Mahdi sans qu'il y eût besoin de rajouter son code génétique au produit de décongélation. Il s'était raccroché à l'idée qu'il lui suffirait de visualiser le visage de Shari pour être instantanément transféré à ses côtés. C'était davantage un espoir qu'une certitude, une manière inconsciente, peut-être, de se dédouaner de cette dérobade qu'il ne pouvait s'empêcher de considérer comme un acte de lâcheté. Il avait glissé la boîte de seringue dans la poche de sa veste, s'était assis, avait résisté à l'envie dévorante de rouvrir les yeux et de jeter un regard en direction des interliciers qui accouraient dans sa direction, et avait invoqué l'antra. La vibration du son de vie avait supplanté le bruit de cavalcade. Il s'était engouffré dans un impalpable tunnel de lumière bleue. Il avait repris conscience au milieu d'un village dont les maisons de bois et les rues de terre étaient révélatrices d'une civilisation arriérée. Sa brusque apparition avait provoqué une certaine effervescence au sein de la population autochtone. Il s'était retrouvé entouré de créatures aux faces et à l'allure simiesque. Leurs vêtements de peau grossièrement tannée et les ornements d'ivoire qui parsemaient les cheveux de certains, des femmes peut-être, il avait cru remarquer des renflements sur leur poitrine, ne réussissaient pas à occulter leur nature bestiale. De même, l'âcre odeur qui s'exhalait d'eux avait rappelé à Jek la puanteur des fauves endormis du parc cinégétique d'Anjor. « N'ayez pas peur, ils ne sont pas méchants. » La voix grave qui avait jailli dans son dos appartenait à un missionnaire creusien, reconnaissable à son col en corps et son surplis safran. Un homme sans âge, au visage anguleux, aux yeux brillants, aux sourcils broussailleux et aux épaules voûtées. « C'est la première fois que vous rencontrez des mi-hommes mi-bêtes. » Revenu de sa surprise, Jack avait acquiescé d'un vague mouvement de tête. Deux astres posés comme de gigantesques luminaires aux extrémités opposées de l'horizon paraient la voûte céleste de figures géométriques qui associaient toutes les nuances du rouge et du bleu. Tout autour du village se dressait la muraille haute et sombre d'une forêt. Le missionnaire avait fendu la foule des mi-hommes mi-bêtes, s'était approché de l'Anjorien, l'avait enveloppé d'un regard soupçonneux. « Comment êtes-vous arrivé à Sranbra ? Cela fait plus d'un mois qu'aucun Novalibus n'est passé au village. Vous n'êtes tout de même pas venu à pied. La première agglomération digne de ce nom, Malker, se trouve à plus de 700 kilomètres d'ici. Vous avez utilisé un déromate, n'est-ce pas ?»
Jake avait gardé un mutisme prudent.
« Un déromate clandestin, je suppose. » avait poursuivi le missionnaire. « Vous ne montreriez pas tant de méfiance si vous étiez en conformité avec la loi. Mais ne craignez rien. Les édits impériaux ne s'appliquent que de manière très fantaisiste sur le satellite Guetta Blanc. Peu m'importe les raisons bonnes ou mauvaises qui vous ont poussé à nous rendre visite. Il nous suffira, à mes brebis et à moi-même, de vous accueillir comme un frère de fortune. » Comme un fils bien-aimé du Kreutz.
Cette entrée en matière avait préludé à un repas délicieux bien que rustique, préparé et servi par des servantes indigènes dans la casute, ainsi s'appelaient les habitations des mi-hommes mi-bêtes du missionnaire. Jack s'était débrouillé pour éluder le sujet du transport malgré l'insistance de son hôte. Ce dernier avait également invité à sa table le chef du village, un dénommé Drar Plège, et les deux plus anciennes, les raconteuses, les dépositaires de la mémoire, des femmes aux faces ridées, aux arcades saillantes, aux petits yeux renfoncés et inexpressifs. Ils n'avaient pas cessé de jeter des regards apeurés, dérobés et curieux à Jack, dont l'émergence soudaine dans l'enceinte de leur bourgade les avait saisis d'admiration et d'effroi. Sa magie semblait plus puissante encore que celle du frère Serjan. Il s'était accoutumé à la machine volante du missionnaire, ce gros œuf transparent dont l'insupportable vrombissement les avait jadis terrifiés, mais aucun grondement, aucune lumière, aucune manifestation n'avait précédé l'apparition de l'enfant vêtu de gris. Ils étaient persuadés que c'était Viou, le dieu des vents, qui l'avait déposé sur leur territoire. Ils ne parlaient jamais de leurs dieux ancestraux au frère Sergian, car le missionnaire déployait une telle conviction, une telle ardeur pour soutenir que le grand Kreutz était le seul dieu, que l'affirmation du contraire leur serait apparue comme la pire des cruautés. Cependant, Aussitôt qu'il montait dans le gros œuf qui venait le prendre tous les 3 mois pour l'emmener à la mission principale de Malker, d'où il revenait par Dermat, ils perpétraient leur rite traditionnel comme s'ils n'avaient jamais entendu parler du creusianisme. Chez eux, et c'était peut-être l'explication de l'étrange stagnation de leur civilisation, le respect de l'étranger, de l'hôte, passait avant les allégations des croyances. Jake s'était montré incapable de comprendre leur langage. Un mélange improbable de borborygme, de raclement de gorge et de quelques mots d'un périangue.
« Ne vous inquiétez pas, j'ai moi-même mis plus de 3 ans à décoder leur jargon », avait précisé frère Sergian.
Il avait ensuite parlé de lui, de la révélation qui l'avait entraîné à consacrer son existence à l'enseignement du Kreutz, de ses études à l'école de propagande sacrée de Duptina, où il avait bien connu Fraciste Bog, l'actuel moufti de l'église du Kreutz, de son affection pour Getablan, l'un des satellites de Syracusa, de son éternel combat contre les compagnies de tourisme qui organisaient des safaris spéciaux pour les grands courtisans de Vénitia.
Et vous savez qui en est le gibier, eux.
D'un ample geste du bras, il avait désigné le chef et les 2 anciennes.
On m'a rapporté que c'est la même chose sur la planète Franzia, de l'amas de Néorope. On y chasse les sylvages pour le simple plaisir d'accrocher leur tête empaillée sur les murs du salon. Mais qu'y a-t-il d'étonnant à ce mépris total de la vie? L'exemple n'est-il pas venu d'en haut? Les anciennes m'ont raconté qu'il y a de cela 50 ans, le connétable Pamings a fait déporter un nombre considérable de mi-hommes mi-bêtes pour les utiliser comme cobayes dans le cadre d'une expérimentation sur la mort mentale. Que le Kreutz nous prenne en pitié, dans quel monde vivons-nous? Moi qui ai bien connu Fraciste Bog, je ne pense pas que son accession au trône mufial soit faite pour arranger les choses.
Fraciste Bog? Le gouverneur du Djen?
L'ancien gouverneur. Vous le connaissez?
Pas personnellement.
Son élection à la charge de souverain pontife m'inquiète. À l'EPS de Duptina, il témoignait déjà d'un manque de tolérance consternant.
Les gens peuvent changer,
avait avancé Jake en repoussant son assiette de bois. La sauce aigre-douce dans laquelle baignaient les morceaux de légumes et de viande avait commencé à lui soulever le cœur. Il avait machinalement glissé la main dans la poche de sa veste, avait effleuré, outre la boîte de seringue, la petite sphère du code cryo. Ce contact l'avait brusquement reconnecté à la réalité. Ce repas et les confidences de frère Sergian lui avaient déjà coûté trop de temps. Il lui fallait maintenant retourner sur Syracusa pour ranimer Chari avant qu'il ne fût trop tard. Et la surveillance étroite dont le Mahdi ferait l'objet ne lui faciliterait certainement pas la tâche.
Fraciste Bog n'a pas changé en tout cas, avait affirmé le missionnaire. Le début de son pontificat a été marqué par le génocide du peuple Gersalémine et la multiplication des croix de feu. Le Kreutz est pourtant venu prêcher l'amour du prochain.
Aimer son prochain, c'est le ramener sur le chemin de sa source, de sa souveraineté, de sa liberté.
Jake n'avait pas compris pourquoi il avait prononcé ces mots, peut-être parce qu'ils n'étaient que l'expression de l'antra qui vibrait déjà dans le silence de son âme.
Vous êtes bien jeune pour philosopher de la sorte, et si vous m'expliquiez maintenant comment...
Le son de vie avait absorbé la voix du missionnaire. Les froissements des vêtements de peau des mi-hommes mi-bêtes, invités et servantes, les petits bruits de lapement et de mastication qu'ils produisaient en mangeant, le murmure du vent, le frisély des frondaisons, les cris lointains des enfants.
Juste avant d'être happé par la bouche de lumière bleue, Jake avait tenté de penser à Chari, mais, curieusement, il n'était pas parvenu à reconstituer le visage de celui qui avait été son seul compagnon pendant plus de 3 ans.
Il s'était rematérialisé dans une chambre éclairée par des bulles flottantes tamisées et dont l'aspect luxueux offrait ce curieux paradoxe d'être à la fois ostentatoire et discret. Il avait d'abord aperçu un grand baldaquin d'optallium,
puis un corps allongé sur un lit à suspension d'air, et enfin les silhouettes de deux hommes et d'une femme alignés devant une banquette. Contrairement au mi-homme mi-bête du guetta blanc, il n'avait pas paru étonné par son apparition. Il l'avait fixé d'un air détaché, légèrement hautain, comme ils auraient contemplé un insecte. Leurs traits d'une finesse peu commune, la pâleur artificielle de leur visage, les mèches savamment enroulées autour de leur couronne haut, les fastueux tissus vis de leur col en corps et de leur cape, tout en eux dénotait les origines aristocratiques. Cependant, leur taille, nettement réduite par rapport à la norme, et la flamme sombre qui brillait dans leurs yeux leur donnait une allure mystérieuse, intrigante.
« Voici donc le garçon dont vous nous avez parlé, »
avait dit la femme en se tournant vers un troisième homme, dont Jacques n'avait pas encore remarqué la présence. Vêtu d'un uniforme de l'interlice, il n'avait pas réussi à masquer sa surprise, contrairement aux trois autres. La bouche entrouverte, les yeux exorbités, il avait dévisagé Jacques avec la même expression que s'il s'était trouvé face à un spectre du grand enfer creusien.
« Eh bien, capitaine, ne vous a-t-on jamais appris à contrôler vos émotions ?»
avait repris la femme.
« Veuillez m'excuser, madame. Je ne suis pas encore habitué à ce genre de sorcellerie. »
« N'appelez pas sorcellerie ce qui n'est qu'une science, une application de lois physiques méconnues. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. »
De cette femme, d'apparence très frêle et d'un âge indéterminé, se dégageait une autorité tranchante. Elle avait immédiatement ressuscité dans l'esprit de Jack l'image de Yemata, la responsable du réseau de passeurs clandestins de Néa Marcille.
J'étais loin et il faisait nuit, mais je crois bien que c'est lui, avait confirmé le capitaine. De toute façon, les individus qui apparaissent et disparaissent à volonté ne doivent pas être légion sur la place de Vénitia.
Jack s'était approché du lit et avait contemplé Shari, qui semblait dormir d'un sommeil paisible, n'eût été la teinte anormalement verdâtre de sa peau.
« Êtes-vous bien certain de n'avoir laissé aucun témoin derrière vous, capitaine ?»
avait demandé la femme.
« Certain. J'ai définitivement réduit mes hommes au silence. J'espère seulement que vous ne m'avez pas raconté des histoires, dame et sieur de Mars. »
« À quel sujet ?»«
Les microstases. » Elle protège vraiment l'esprit des inquisitions mentales.
Douteriez-vous de nos talents, capitaine? Notre famille est experte dans l'art des alliés chimiques depuis plus de 15 générations.
Elle s'était approchée de l'officier et, bien que plus petite que lui de deux bonnes têtes, l'avait toisée avec condescendance.
Ne vous faites pas plus stupide que vous n'êtes, capitaine, si nos microstases n'étaient pas efficaces. Il y a bien longtemps que nous aurions nous-mêmes été condamnés à la croix de feu à combustion lente.
C'est juste. Qu'est-ce que vous comptez faire de vos deux protégés?
Nous vous informerons de nos intentions en temps voulu.
Le capitaine avait hoché la tête et s'était retiré. Jake avait fait connaissance avec Miahit, Guntri et Zerni de Mars, descendants d'une des familles syracusaines les plus anciennes et les plus renommées, selon eux, de Vénitia. Il avait alors renoué le lien entre Yemata, l'exilé de Franzia, une Marcelle aussi, et ses interlocuteurs syracusains. Ils avaient déjà injecté des produits de réanimation dans le corps de Shari, mais, au lieu de recouvrer progressivement son métabolisme de veille, il s'était stabilisé dans un état cataleptique, d'autant plus alarmant qu'une deuxième injection aurait immanquablement provoqué une surdose et l'arrêt définitif des fonctions vitales. Il n'avait pas eu d'autre choix que d'attendre. Inquiet, Jake avait écouté d'une oreille distraite les explications amphigouriques des Mars. Il lui avait semblé comprendre qu'il leur proposait une sorte d'alliance pour renverser l'empereur et éliminer le sénéchal Arcot, puis qu'il constituerait un gouvernement de coalition dont il prendrait de manière tout à fait naturelle le commandement. En revanche, il n'avait pas saisi quel serait le rôle des guerriers du silence au sein de cette organisation.
Les temps sont venus de renverser les Hangs, ces fossoyeurs de notre civilisation, et leurs âmes damnées d'Hyponeros.
avait déclaré Miaït, la sœur aînée, dont la voix déterminée, tranchante, démentait l'impassibilité marmoréenne des traits.
Les Hang ont confisqué le pouvoir à l'issue des guerres artibaniques, avait ajouté Guntri le cadet. Mikeli Hang, le premier seigneur de l'époque moderne, a purement et simplement assassiné Artibanus Saint-Noël, le héros de l'aristocratie, le vainqueur du comité planétaire. Ce sont les Hang, et particulièrement le seigneur Argeti, qui ont favorisé l'émergence des Skaït d'Hyponeros,
avait renchéri Zerni le Benjamin.
Les Hang qui ont exilé Srimitsu, qui ont renversé la confédération de Naflin. Les Hang qui ont démantelé l'ordre Absurat.
Jake avait décelé d'infimes mouvements sur les paupières et les lèvres de Shari. C'était en suivi de longues heures pendant lesquelles le Mahdi, en proie à une fièvre brûlante, avait prononcé des phrases incohérentes et syncopées. Conformément aux instructions du médecin personnel de Miaït de Mars, les serviteurs lui avaient retiré ses vêtements et lui avaient recouvert le corps de bandelettes humides et imbibées d'huiles essentielles qu'ils avaient changées à intervalles réguliers. Les Mars s'étaient retirés pour se reposer.
« Pour rendre une petite visite au tyran des microstases », selon un serviteur à la langue déliée.
L'état de Shari avait alarmé Jek à un tel point qu'il n'était pas parvenu à trouver le sommeil. Le regard de l'Anjorien, assis sur la banquette à suspension d'air, était resté rivé sur le visage tourmenté et transpirant du Mahdi, guettant sans relâche le moindre signe d'amélioration, la moindre lueur de lucidité qui lui eût donné un motif d'espérer. Il s'était refusé à croire que son compagnon, son instructeur, l'homme qui avait débroussaillé le chemin qui menait aux Analindiques, l'homme dont la mère avait été torturée par les prêtres de son peuple, l'homme que le destin avait séparé de son fils et de la femme qu'il aimait, se laisserait emporter par la mort avant d'avoir accompli sa tâche. Les heures s'étaient égrenées, interminables, ponctuées par les râles et les halètements de Shari. Les rayons de la première aube s'étaient immiscés dans la chambre par la grande baie vitrée, avaient baigné d'or rose les montants d'optallium tressés du baldaquin, les tapis à motifs changeants, les dômes géodésiques, les tentures où glissaient silencieusement des poissons aux nageoires ondulantes et translucides. D'un geste de la main, Jake avait refusé le plateau repas que lui avait présenté un serviteur. Puis, terrassé par la fatigue, il s'était assoupi. L'intrusion des trois Mars et du médecin l'avait brutalement tiré de son sommeil. À la lumière du jour, plus crue que les rayons ténus des bulles flottantes, ils avaient paru bien plus âgés que la veille. Cela tenait également au fait qu'ils n'avaient pas pris le temps de se farder, de masquer les rides profondes qui leur sillonnaient le front, les tempes et les joues. La fronce du cache-tête de Miaït, mal ajustée, laissait paraître les racines grises de sa chevelure teintant bleu. Il s'était avancé vers le baldaquin et c'est alors seulement que Jake avait croisé le regard de Shari, adossé au montant de bois précieux de la tête du lit. Un regard encore fiévreux mais qui avait recouvré son expressivité. Fou de joie, l'Anjorien avait sauté de la banquette, avait franchi en deux bonds l'espace qui le séparait du lit et s'était jeté dans les bras du Mahdi qui avait esquissé un pâle sourire. Ce débordement affectif avait consterné les Mars, dont le contrôle APD, l'un des plus renommés de Syracusa, prohibait formellement toute ostentation émotionnelle. Les Mars exploitaient d'ailleurs la réputation de leur auto-psyché-défense à des fins commerciales. L'appartenance à une grande famille ne dispensait pas des contingences matérielles, d'autant moins que les Mars se refusaient catégoriquement à quémander une prébende auprès de l'usurpateur Hang. Et ils monnayaient très cher leurs leçons de prestige et de maîtrise APD chez les nobles mineurs ou les riches bourgeois en quête de reconnaissance aristocratique. Jake, qui se moquait totalement de ce genre de considération, était resté un long moment blotti dans la chaleur du Mahdi. De temps à autre, il oubliait qu'il était entré dans l'âge d'homme et il ressentait encore le besoin d'être arrosé de tendresse. Cette tendresse que lui avait prodiguée avec tant de parcimonie Pa et Mahatskin. « Nous pouvons vous aider à prendre les deux derniers codes, » affirma Miaït.
« De quelle manière ?»
demanda Chari. Il venait d'achever son repas et avait reposé son plateau sur la table de chevet. Il avait passé le col encore blanc que lui avait apporté un serviteur. Aidé par l'antra, il avait récupéré en partie ses forces et son visage avait recouvré son habituel teint cuivré. La lumière du jour entrait à flots par la baie vitrée. Jake observait un salier huppé qui faisait la roue sur l'herbe fuchsia. Les rayons de rose rubis empourpraient les feuilles et les fruits translucides des spuniers. Les cimes mobiles et mauves des arborivoles, arrimées au sol par des lianes transparentes, oscillaient sous les caresses de la brise.
« Nous disposons d'hommes sûrs parmi la garde impériale pourpre. »
Les codes changent de place tous les jours.
« Nous sommes également informés de ces mouvements. Nous fournirons de faux codes à nos hommes. Ils ne devraient pas rencontrer de difficultés à effectuer la substitution. »«
Vous oubliez les rayons cryos. Ils se déclenchent au moindre mouvement de la sphère. »
Miaït se tourna vers ses deux frères qui se tenaient légèrement en retrait, et ses lèvres minces s'étirèrent en une imperceptible moue, un sourire peut-être. Elle avait savamment disposé ses deux mèches réglementaires autour de sa couronne haut lumineuse. Comme la plupart des grandes familles, les Mars étaient partisans des deux mèches et jugeaient comme une offense au goût la mode des trois, voire quatre mèches, que certains avaient voulu imposer à la cour. Ces rides et les autres stigmates abandonnés par la consommation effrénée des microstases disparaissaient sous une couche de poudre blanche agrémentée d'une mouche aux commissures de sa bouche, elle-même recouverte de nacrelles rouges. Le vert sombre de sa cape mettait en valeur le beige à reflets changeants de son col encore.
Nous disposons également de quelques fidèles alliés dans les équipes de maintenance technique. Ils neutraliseront les cryogéniseurs automatiques pendant les 2 ou 3 secondes que durera la substitution. Notre réseau se chargera ensuite d'acheminer les codes jusqu'ici, et vous n'aurez plus qu'à vous transporter par la pensée au palais épiscopal.
Il ne vous reste plus beaucoup de temps, dit Guntry. L'assaut devrait être donné au deuxième crépuscule.
L'assaut.
Les cardinaux et le vicariat, soutenus par la cour, s'apprêtent à déposer le marquinatol par la force. Un bataillon composé d'interliciers, de gardes pourprés et de mercenaires de Prithiv a déjà investi les passages secrets du palais épiscopal.
« C'est qui le marquinatol ?» demanda Jake.
Guntry se fendit d'un soupir qui, bien qu'à peine perceptible, traduisait vraisemblablement le comble de l'exaspération pour une personne de sa qualité.
L'actuel moufti de l'Église, un jeune cardinal martinatin qui a usurpé sa place sur le trône pontifical.
Je croyais que le moufti était élu par les cardinaux réunis en conclave, fit observer Chari.
D'après nos informateurs, le vicariat a falsifié le scrutin. Les eunuques le regrettent aujourd'hui, mais nous pensons qu'ils ont été eux-mêmes manipulés par l'ancien moufti Barophile le 24e.
« Quel motif pousse les cardinaux à vouloir renverser le chef de l'Église? N'est-il pas protégé par le dogme d'infaillibilité ?»
La question parut probablement incongrue aux Mars, qui se consultèrent du regard et exprimèrent leur réprobation d'un infime mouvement de la lèvre supérieure.
« Le dogme est réservé aux gens du commun, » dit Miaït.
« L'infaillibilité n'est pas une loi divine, monsieur, » ajouta Guntry. Mais une règle politique. Et la condamnation du marquinatol est également une décision politique, renchérit Zerny.
Vous ne l'approuvez pas ? Demanda Chari. Il n'avait pas compris jusqu'à présent pourquoi les Analindiques avaient désigné le moufti de l'Église comme l'un des 12 cavaliers de la rédemption. La rigidité et le fanatisme des Croisiens obscurcissaient le sentier qui menait à la source, qui reliait l'homme à sa véritable nature, et il avait encore du mal à compter parmi ses alliés l'individu qui gouvernait cette implacable machine à broyer les âmes. Il ignorait encore quel cheminement intérieur avait suivi le moufti, et son prédécesseur probablement, puisque, selon les dires des Mars, Barophile le 24e avait manipulé le vicariat
pour favoriser l'accession du Marquinatol au trône pontifical. Pour en arriver à conclure que l'Église faisait fausse route. La guerre qui dressait les cardinaux, les vicaires et les courtisans contre le souverain pontife éclairait la situation sous un jour nouveau. Le conflit n'était pas seulement politique, comme l'affirmaient les Mars. Il ne mettait pas seulement aux prises des Syracusains jaloux de leurs prérogatives et un homme qu'ils considéraient comme un imposteur paritole. Il participait de la lutte permanente qui se livrait dans les sphères de l'esprit.
La présence d'un paritole à la tête de l'Église ne nous plaisait guère, monsieur, précisa Guntry de Mars. Elle nous est devenue odieuse lorsque ce même paritole s'est cru autorisé à défier les grandes familles et à bafouer les traditions syracusaines. Il a réduit les audiences à leur strict minimum. Il a transformé le palais épiscopal en une véritable forteresse et ses serviteurs, des paritoles comme lui, font subir les pires vexations aux visiteurs. Il ne gouverne pas. Il passe son temps à se livrer à d'obscures pratiques assimilables à de la sorcellerie, renchérit Zerny. Tout cela nous a amenés à soutenir la position des courtisans et à proposer notre propre candidat à la succession. Un homme issu des 10 premières familles vénitiennes et protégé par les Microstases. Nous avons d'ores et déjà acquis la majorité des cardinaux à notre cause.
Chary se leva, fit quelques pas en direction de la baie vitrée et posa la main sur l'épaule de Jacques. Il admira pendant quelques minutes les gracieuses arabesques des arborivoles sur le fond sanguin du premier jour. Son corps recouvrait peu à peu sa vigueur, et il goûtait sans réserve le bonheur simple de contempler la magnificence du parc. La vie sous toutes ses formes lui apparaissait comme le plus merveilleux des présents. Il était conscient que ce coma de quelques heures n'avait été que la traduction de son découragement, de sa détresse, de sa tentation de renoncer. Mais il était sorti de son combat avec la mort, enraciné dans son aspiration de tout mettre en œuvre pour soustraire l'humanité au terrible sort qui lui était promis.
Quelles sont vos raisons de nous offrir votre aide ? Demanda-t-il sans quitter des yeux les cimes flottantes des arborivoles.
Vous avez développé certaines facultés qui pourraient nous être utiles, répondit Mihait. Nous pensons que vous, non seulement cet enfant et vous, mais peut-être les 4 criots et d'autres que nous ne connaissons pas, formez le noyau d'une organisation secrète appelée un jour à remplacer l'ordre Absurate. Il nous semble qu'un gouvernement universel devrait être à la fois garanti et contrôlé par un organisme occulte composé d'individus clairvoyants, doués de perceptions affinées. Tel était le rôle dévolu aux smélas de la congrégation et aux chevaliers absourates. Ce système mis en place par Naflin le fondateur a tenu bon pendant 80 siècles. 80 siècles ? Un bail extraordinairement long pour une structure interplanétaire d'une telle complexité. Une ère formidable de stabilité et de progrès. C'est cet équilibre que nous désirons reconstituer.
Une nouvelle confédération de Naflin. Mihait se rapprocha à son tour de la baie vitrée. Bien qu'elle fût à peu près de la même taille que Jacques, qu'elle eût donc pu passer pour une fillette, l'arrondi de ses hanches et de sa poitrine, la lourdeur de sa silhouette et l'usure de son visage ne laissaient planer aucun doute sur sa maturité de femme. La fragrance de son parfum se mêlait à une odeur âpre de minéraux broyés. Elle leva la tête et plongea ses yeux d'or pâle dans ceux de Chary.
« Il serait illusoire, stupide !» de ressusciter le cadavre de la Confédération de Naflin, monsieur,
dit-elle en articulant chaque syllabe.
Nous préférons opter pour un gouvernement centralisé éclairé, et dans cette optique conserver la structure impériale. L'Église du Creutz savait légitimer les Hang et...
Je ne vois pas quelle caution nous serions en mesure de vous apporter, Dame de Mars, l'interrompit Chary. Nous ne sommes qu'une poignée d'hérétiques classés à l'index.
Ne croyez pas cela. Vous disposez de la seule véritable légitimité, la légitimité populaire. Notre réseau d'informateurs extérieurs nous a confirmé que les guerriers du silence sont connus et célébrés sur toutes les planètes de Lang Empire. En dépit des effacements, de nombreux cultes clandestins s'érigent et se développent sur le nom du Madhishari des Imlias, de Shri Lumpa de Nayafikit.
Guntri de Mars vint rejoindre sa sœur aînée devant la baie vitrée.
La situation est mûre, monsieur, dit-il. L'élite de la noblesse syracusaine approuve notre projet. Les mercenaires de Prithiv, déçus du manque de gratitude de l'empereur à leur égard, sont prêts à nous appuyer. Enfin, et c'est probablement l'élément le plus important, nous pensons avoir mis au point des microstases susceptibles de neutraliser les skites d'Hyponeros, l'équivalent chimique de leur procédé d'effacement.
Comment les obligerez-vous à ingurgiter votre mixture ? Un sourire condescendant affleura sur les lèvres de Guntri, fardé de nacrelles noires.
Mixture n'est pas un terme très approprié, monsieur. De plus, les skaïdes n'ingurgitent rien, ni nourriture, ni eau, ne respirent pas, donc n'aspirent pas, ne dorment jamais. La seule possibilité de diffuser les microstases dans leur organisme, si tant est que l'on puisse appeler organisme cette odieuse caricature de corps, c'est de leur glisser une gélule dissolvante dans l'un de leurs orifices nasaux. Nous nous y emploierons à l'aide de minuscules automates, de la grosseur d'un insecte, que nous piloterons depuis une salle de contrôle.
Qui avez-vous l'intention de placer sur le trône impérial ? Après avoir jeté un bref coup d'œil à son frère, Miaï de Mars s'avança d'un pas.
N'y voyez aucune manifestation de défiance de notre part, mais nous préférons pour l'instant garder cette information par-devers nous.
Shari observa distraitement un salier huppé qui faisait la roue devant un buisson de l'Éripas. Ce n'était pas l'amour de l'humanité qui animait les Mars, mais une ambition démesurée, dévorante, une volonté exacerbée d'entretenir, voire d'étendre l'hégémonie syracusaine sur le reste de l'univers. Gouverné par les microstases, il favoriserait l'avènement d'une puissance occulte sur les mondes colonisés, de la même manière que les Creudiens et les Skaites d'Hyponeros ouvraient la voie à l'incréé.
« Eh bien, monsieur, que pensez-vous de notre proposition ?»
dit Miaït. « De même que vous souhaitez garder secret le nom du futur empereur, je vous donnerai ma réponse lorsque vous m'aurez remis les deux derniers codes, » répondit Shari. Il avait déjà arrêté sa décision, mais il n'était pas dans la position de négliger leur collaboration, d'autant moins qu'il ne savait pas si son corps était suffisamment remis pour tolérer un transfert psychokinétique immédiat. En outre, il leur aurait fallu, à Jack et à lui, retourner dans les annales indiques afin de localiser les codes, de préparer leur intervention, et ils auraient pris le risque considérable de revenir trop tard sur Syracusa, de laisser aux armées impériales le temps de prendre le palais épiscopal d'assaut et de s'emparer des quatre corps congelés.
« C'est juste, comme aurait dit notre ami capitaine, » déclara Miaït. Une preuve de notre efficacité vous aidera à opérer le bon choix. Vous aurez ces codes dans 2 heures.
Alezaïa ne parvenait pas à se défaire du sombre pressentiment qui l'étreignait. Elle avait pensé rencontrer son correspondant inférieur dans les rues de Rome Antigua, mais elle avait eu beau l'attendre à l'endroit et à l'heure convenue, jusqu'à ce que Rose Ruby fît son apparition au-dessus des toits, il ne s'était pas présenté. Or, son appartenance au réseau lui commandait d'observer un itinéraire et un horaire invariables pour permettre à sa supérieure de lui transmettre ses instructions de vive voix. Avant de prendre son service chez les Blaux Renards, lequel service se limitait exclusivement au bien-être du sieur Patrise, elle appela son correspondant supérieur par le canal d'urgence. Il a probablement eu un problème avec la famille Mars, avança celui-ci. Il a cuisiné la fille cadette de Guntri de Mars, une écervelée notoire, et ces gens-là détestent qu'on vienne fouiner dans leurs affaires.
Quel genre de problème ?
Son invisible interlocuteur marqua un temps de silence. Le genre dont on ne revient jamais, je le crains.
Alésaïa se mordit les lèvres jusqu'au sang, mais elle ne put empêcher les larmes de jaillir de ses yeux.
Les passants lui jetèrent des regards réprobateurs. Outré qu'un être humain digne de ce nom, fût-il femme et paritole, pût à ce point manquer de contrôle.
« Vous remplirez donc la mission à sa place, » reprit le correspondant supérieur. « Trouvez un prétexte pour vous rendre à la résidence secrète des Mars, et débrouillez-vous pour prévenir les guerriers du silence que le Sénéchal garde les 4 vrais codes cryo sur lui. » Il faut agir très vite, tout doit être réglé avant le 2e crépuscule.
Elle acquiesça d'un mouvement de tête, oubliant qu'il ne pouvait pas la voir. Elle suffoquait, et elle ne parvenait pas à remettre de l'ordre dans ses pensées. Elle ne connaissait pas le nom de son correspondant inférieur, mais la perspective de sa disparition équivalait pour elle à l'écroulement d'un monde. Elle avait l'impression que les éclats de ses illusions brisées lui meurtrissaient l'âme. Elle ne pourrait jamais se pardonner de l'avoir rudoyée lors de leur dernière communication.
Voici les coordonnées et le code d'accès de la résidence secrète des Mars.
Elle enregistra la suite du message comme dans un brouillard d'où émergeaient des chiffres entrecoupés de recommandations.
Fermez votre canal d'urgence, mais n'hésitez pas à me tenir informé aussi souvent que possible. Nous dépêchons d'autres correspondants sur les lieux. Ils seront chargés de vous suppléer à la moindre défaillance de votre part. Bonne chance.
La mort dans l'âme, rongée par la détresse, elle regagna l'immeuble des Blauts Renards par les ruelles étroites de Rome Antigua. Cette nouvelle mission ne la dispensait pas de sa corvée quotidienne. Elle ne pouvait pas se permettre de négliger Patrice de Blauts Renards, de tarir sa principale source de renseignements. Elle entra par une porte dérobée et codée réservée à son seul usage et se rendit directement dans les appartements de Patrice. Il l'attendait, nu, allongé sur le lit. Dans ses yeux gris brillaient les éclats des mégastases, ces stimulants chimiques sans lesquels son membre viril serait resté désespérément flasque. Alésaïa se déshabilla rapidement dans la salle des ondes lavantes, revêtit la luxueuse palatine de dame de Blauts Renards et vint se glisser dans le lit. Elle dut en appeler à toute sa volonté pour endurer la tiédeur et la mollesse du grand courtisan, dont la peau douce et parfumée souleva en elle un début de nausée. Il n'était pas très âgé, une 60aine d'années standard peut-être, mais son comportement était déjà celui d'un vieillard. Il se percha sur elle avec aussi peu de fougue que de coutume et, comme elle ne fit rien pour lui faciliter la tâche, il peina 1000 morts pour réussir à la pénétrer. Elle avait la sensation de recevoir en elle une limace obstinée. Elle perçut la subtile constriction annonciatrice de l'éjaculation qui, chez Patrice de Blauts Renards, comme chez la plupart des grands courtisans jeunes ou vieux, se limitait à l'émission poussive d'une gouttelette presque transparente et fluide. Il se fendit d'un long soupir et s'abattit lourdement sur elle comme terrassé par une performance physique exceptionnelle. Il ne transpirait pas, ne dégageait aucune odeur corporelle, et ce défaut d'animalité élémentaire exaspérait autant sa partenaire que la façon qu'il avait de s'endormir comme une masse après s'être soulagé en elle. Combien différente aurait été une relation amoureuse avec son complanétaire Osgorite. Elle refoula une nouvelle montée de larmes et se dégagea du corps inerte du grand courtisan.
« Désolé, je ne suis pas dans ma meilleure forme, » murmura-t-il d'une voix ensommeillée.
Alésaïa s'abstint de lui répliquer qu'elle n'avait remarqué aucune différence avec les jours où il se prétendait en pleine possession de ses moyens.
« Trop de travail, » poursuivit Patrice de Blauts Renards. « Nous sommes le 11 de Cestus et la journée s'annonce chargée. L'attaque du palais épiscopal était prévue depuis longtemps, mais nous avons dû nous réunir pendant une grande partie de la seconde nuit
pour mettre au point la descente d'Interlich chez les Mars. Le sénéchal n'aurait pas pu lancer l'opération sans l'accord préalable des autres familles majeures.
Alésaïa se redressa et secoua l'épaule du courtisan. Que se passe-t-il chez les Mars?
Oh, ils ont recueilli les deux visiteurs clandestins de la nuit précédente, ces deux sorciers indiquent. D'après le sénéchal, cela ne fait plus de 10 ans qu'ils fomentent un complot pour renverser Ménati Imperator. Ils produisent des microstases qui interdisent l'inquisition mentale et comptent de nombreux alliés parmi les officiers supérieurs de l'Interlis. Les mercenaires de Prictive, les cardinaux et les courtisans. Le sénéchal n'était pas intervenu jusqu'alors, car il avait glissé ses propres informateurs dans leur organisation. Il estimait que les oppositions, catalysées par les Mars, seraient plus faciles à contrôler, et les événements lui en donnaient raison, comme toujours. Il leur a préparé une petite surprise à sa façon. Les deux codes que remettra cette traînée de Miaï de Mars aux deux sorciers indiques seront des micro-bombes cryogénisantes.
Dans combien de temps s'effectuera la descente d'Interlis?
Il entr'ouvrit les paupières et jeta un coup d'œil sur la pendule holographique murale. Non, moi, du là. Et maintenant, ma douce amie, quel que soit votre admirable intérêt pour les affaires de Langue Empire, permettez-moi de prendre un peu de repos. Vous m'avez épuisé.
Il ne lui fallut pas 10 secondes pour s'endormir. Alésaïa repoussa le drap, se releva et se rua dans la salle des ondes lavante où, tout en se rhabillant, elle contacta son correspondant supérieur par le canal d'urgence et lui rapporta rapidement les paroles du grand courtisan.
Nous savions que le sénéchal contrôlait la famille Mars et leurs affidés, mais nous ne pensions pas qu'ils seraient informés de la présence des guerriers du silence dans leur résidence secrète.
Le dépit qui sous-tendait la voix de son correspondant supérieur n'échappa pas à l'attention d'Alésaïa. Elle rajusta le cache-tête de son col encore et tira hâtivement 2 mèches de sa chevelure.
« Il n'est plus question de prudence. Foncez chez les Mars et arrangez-vous pour contacter les guerriers du silence, par n'importe quel moyen. Avez-vous une arme sur vous ?»«
Je sais où en trouver une, mais je risque de mettre le réseau. » »«
L'Unrook n'aura bientôt plus aucune raison d'être. N'hésitez pas à vous servir de votre arme. Au fait, nous avons reçu des nouvelles de votre correspondant inférieur. »
Une flambée d'espoir embrassa Alésaïa.
De mauvaises nouvelles. On l'a retrouvé dans l'entrée de son appartement, le ventre ouvert et le crâne en charpie.
La jeune femme réprima une violente envie de vomir. Lorsqu'elle eut repris ses esprits, une rage meurtrière s'empara d'elle, et elle ne fut plus animée que par un désir incoercible de venger l'homme qu'elle avait projeté d'aimer. Elle s'approcha silencieusement de la commode de bois précieux installée entre les 2 baies vitrées de la chambre, ouvrit le tiroir du bas, saisit un nom de bord à canon court et à la crosse ornée de motifs nacrés, le glissa dans une poche de sa cape et, après s'être assurée une dernière fois que Patrice de Blorenard dormait du lourd sommeil du juste, sortit sur le palier. Le délai annoncé par Miaïd de Mars était dépassé depuis déjà 15 minutes, et contrairement à ses promesses, Shari et Jack n'étaient pas entrés en possession des 2 derniers codes. Ils avaient mis leur inactivité à profit pour se reposer et reprendre des forces. Ils s'étaient assis sur la banquette et, indifférents aux incessantes allées-venues des serviteurs, ils avaient fermé les yeux et s'étaient laissés porter par la vibration de l'antra. Ils les avaient emmenés dans des zones profondes d'eux-mêmes, dans des vestiges d'existences oubliées. Ces explorations dans les fondements de leur âme ressemblaient aux expéditions dans le Naos des annales indiques. Des scènes se succédaient les unes aux autres dans le plus grand désordre apparent, à cette différence près qu'il ne restait pas les témoins neutres des bribes d'existence qu'ils découvraient, mais qu'ils en étaient également les acteurs, les moteurs. Il leur était pour l'instant impossible de donner une cohérence, une chronologie à l'ensemble. Ils prenaient seulement conscience que les vies humaines, passées ou présentes, s'agençaient en un ordre secret, tissaient l'imperceptible trame de l'univers. Cette même trame que s'ingéniait à détruire l'incréé et ses agents de l'hyponéros. Lorsque Shari avait rouvert les yeux, un bref regard à la pendule murale lui avait appris que les 2 heures prévues s'étaient pratiquement écoulées. Les serviteurs avaient déserté la chambre, inondée de la lumière pourpre de Rose Ruby. Le silence tendu qui régnait sur la résidence semblait abriter une foule de dangers. Les saliers huppés n'émettaient plus leurs iroulements mélodieux et les ramures des arbres avaient cessé de bruisser. Ce calme était peut-être naturel en cette heure du premier jour vénitien, où les rayons de l'astre rouge se faisaient accablants. Mais il avait créé en Shari un sentiment persistant de malaise, à tel point qu'il s'était demandé s'il avait eu raison d'accorder sa confiance à ses hôtes. Il avait eu une pensée pour Oniki et Taoufraïm. Puis, après avoir évacué sa tristesse, il s'était dit que leur séjour chez les Mars, s'il avait été rendu nécessaire par sa cryogénisation, n'avait que trop duré. D'une pression sur le bras, il avait tiré Jack de sa profonde immersion dans les arcanes de l'inconscient. « Nous devons nous tenir prêts à nous transférer à tout moment et à nous retrouver dans les annales indiques. »«
Tu as les codes ?»
avait demandé l'Andjorien qui, n'ayant pas encore tout à fait réinvesti son corps, éprouvait des difficultés à coordonner ses idées. « Non, mais les 2 heures se sont écoulées, et ce silence ne me dit rien qui vaille. » Les secondes s'étaient égrenées avec une lenteur effarante. Il n'y a rien de pire que d'être dépendant du bon vouloir d'un tiers. Rien de pire que d'être suspendu à l'ouverture d'une porte alors que se faisait ressentir l'impérieuse nécessité de l'action. Des bruits de pas retentirent dans le vestibule de la chambre. Nerveux, Jack voulut se lever et se précipiter à la rencontre des nouveaux arrivants, mais la voix de Shari le cloua sur la banquette.
« L'Antra, prépare-toi au transfert. »
Les 3 Mars, suivis du capitaine de l'Interlys et d'une jeune femme qu'il n'avait encore jamais vue, s'engouffrèrent dans la chambre. 2 petites sphères blanches oscillaient dans la main tendue et gantée de Mihaït.
« Nous sommes désolés de ce retard, monsieur, mais nos amis de la maintenance technique ont mis plus de temps que prévu à neutraliser les systèmes de sécurité afférents au code. »
Aucune trace de contrition n'était cependant décelable dans le timbre de sa voix. Elle s'approcha de la banquette et tendit le bras vers Shari en un geste emphatique.
« Voici les gages de notre bonne foi, monsieur, et les promesses, je veux l'espérer, d'une collaboration fructueuse. »
Jack fixait les sphères qui oscillaient doucement dans la main réduite de Mihaït, mais quelque chose d'indéfinissable, une intuition, une prémonition, l'empêchait de se réjouir de la réunion tant attendue pourtant des 4 codes. Il lui semblait qu'une énergie diabolique se dégageait de ces 2 boules blanches. Il lança un coup d'œil à Shari en espérant attirer son attention, mais il se rendit compte que le Mahdi figé sur la banquette partageait son impression.
« Vous ne les prenez pas, monsieur ?» demanda Mihaït.
Elle désigna d'un mouvement de menton la jeune femme qui se tenait derrière elle.
« Peut-être êtes-vous perturbé par la présence de cette jeune personne. Et nous sommes tellement portés par l'enthousiasme que nous manquons à tous nos devoirs. Je vous présente Irkaït, la fille cadette de mon frère Guntri. Elle a absolument tenu à vous rencontrer. »
Vêtue d'un col en corde noir à parements argentés et d'un manteau serré à la taille, Irkaït était une adepte de la mèche unique, une mode qui avait connu une grande vogue au sortir de l'âge médian. Toutefois, elle affirmait sa modernité par la longueur inhabituelle de cette tresse bleutée qui s'enroulait comme un serpent autour de sa couronne haut lumineuse. Elle esquissa une révérence, pas l'une de ces courbettes raides et ridicules qui caractérisaient les bourgeois et les délégués des guildes professionnelles, mais une inclinaison du buste d'une fluidité et d'une prestance inégalables.
Irkaït n'a qu'un seul défaut, reprit Mihaït. Sa jeunesse et sa fougue l'inclinent aux indiscrétions et nous placent parfois dans des situations embarrassantes.
mais elle nous est aussi et surtout d'une grande utilité, car l'empereur, qui aime sa spontanéité, l'invite régulièrement à ses soirées privées. Elle est devenue de ce fait notre meilleur agent de renseignement au palais impérial.
C'est vous qui me placez dans une situation embarrassante, ma tante, murmura la jeune femme. Elle dépassait Mihaït et ses frères d'une demi-tête. Elle était encore dans la pleine possession de sa beauté, mais une aura grise, l'ombre vigilante des microstases sans doute, ternissait déjà l'éclat de sa peau et de ses yeux bleus.
Prenez ces codes, monsieur, mon bras fatigué.
Un tumulte soudain l'interrompit, ponctué par un crépitement puis un bruit sourd qui évoquait la chute d'un corps sur les dalles de marbre. Une odeur de chair calcinée se diffusa dans l'air parfumé de la pièce. Chary se tourna vers Jack et d'un geste de la main lui intima l'ordre de se préparer au transfert. La porte s'ouvrit dans un fracas de tonnerre et une femme aux vêtements de servante s'introduisit dans la pièce. Des volutes de fumée noire s'échappaient du canon de longue mort qu'elle braquait en direction des Mars. Des lueurs farouches enflammaient ses yeux de braise. La pâleur extrême de son visage trahissait à la fois la peur, la tension et une détermination farouche. Jack invoqua l'antra et commença à visualiser les bouches de lumière.
« Ne touchez pas ces codes !» hurla la servante. « Ce sont des microbombes cryogénisantes !»«
Êtes-vous folle ?» s'indigna Guntry de Mars en s'avançant d'un pas vers l'intruse. « Le fait de porter la livrée blanche des Blaux Renards crée des obligations. La singularité de votre comportement...
Taisez-vous, sieur de Mars, ou je vous brûle la cervelle. Quant à vous, capitaine, je vous déconseille vivement de bouger. »
Son ton résolu figea Guntry sur place et dissuada l'officier de tenter de la désarmer. C'était une Osgorite, une correspondante d'un réseau clandestin probablement. Et les réactions imprévisibles de ces terroristes paritoles en faisaient des adversaires particulièrement redoutables. Elle se dirigea lentement vers la banquette et dévisagea ardemment Chary.
Le sénéchal Arcot garde les quatre véritables codes sur lui, dans la poche intérieure de son akaba.
Elle avait mis toute la force de sa conviction dans sa voix et dans son regard.
Le moufti ?
Elle n'eut pas le temps d'en dire plus. Un rayon scintillant jaillit de l'embrasure de la porte et la frappa entre les omoplates. Elle lâcha son arme et fit quelques pas mécaniques avant de s'effondrer comme une masse au pied du lit. Les deux faux codes explosèrent au même moment dans la main de Mihaït, et les puissants gaz cryogènes qu'ils renfermaient se répandirent dans la chambre.